Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis. Session 9 sur 19. Alors, nous allons reprendre où nous avons laissé à la dernière session, où Jésus avait dit à la Samaritaine que quiconque boirait de l'eau que lui donnait, c'est-à-dire de l'Esprit, n'aura plus jamais soif, et que des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein jusque dans la vie éternelle. Souvenons-nous que pendant tout cet enseignement, j'ai placé une emphase sur le fait que nous avons tout ce qui est nécessaire et que mon travail ici, c'est de vous faire découvrir ce que vous avez déjà et de vous enseigner comment marcher afin que vous puissiez guérir les malades. Jusqu'à maintenant, vous constatez que nous n'avons pas parlé beaucoup de la guérison, mais je dois vous donner au préalable ce qui est nécessaire et l'information que vous avez besoin qui va faire en sorte que mon enseignement fonctionne. Vous devez me faire confiance en cela, parce que c'est ce que je fais partout où je vais dans le monde. Et c'est ce qui fait en sorte que nous avons autant de résultats de guérison. Ce n'est pas seulement une doctrine, c'est de savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Alors, on retourne au récit de Jésus. La femme samaritaine lui a répondu, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui a répondu, Va et appelle ton mari et viens ici. La femme lui a répondu, Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et par la suite, elle parle de la religion. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où nous devons adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne lui dit, Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange! Mais il leur dit, J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Souvenez-vous, ce soir, à mesure que nous étudions la Bible, nous avons parlé au préalable d'immaturité spirituelle et de maturité spirituelle. Et encore ici, nous voyons que Jésus se réfère à la nourriture spirituelle, comme nous avons vu en fait dans l'Épître aux Corinthiens et l'Épître aux Hébreux. Alors, il était question de cette nourriture spirituelle, n'est-ce pas? Alors, Jésus se réfère à une nourriture qui est spirituelle, parce que ses disciples sont venus et lui ont dit, Oui, mange, Seigneur. Et Jésus a répondu, Non, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, il parlait de cette viande spirituelle. Et Jésus va nous dire lui-même ce qu'est cette nourriture spirituelle, cette viande spirituelle. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Arrêtons-nous ici pour un moment. Vous voyez ce que Jésus a dit? Jésus a donné sa définition de qu'est-ce que c'est la viande spirituelle. Selon Jésus, La viande spirituelle est de faire la volonté de Dieu. C'est ça aussi que Paul voulait enseigner aux Corinthiens. J'aimerais vous donner de la viande, mais vous êtes trop charnels. Vous êtes comme des bébés en Christ. Tout ce que je peux faire, vous donner du lait. Alors qu'est-ce que le lait? Le lait est l'enseignement de la parole de Dieu. Nous avons reçu le commandement de désirer ardemment le lait spirituel de la parole. Mais on ne vous a jamais dit de désirer ardemment la viande. Vous devez désirer le lait. Vous devez découvrir ce que la Bible dit. Ça, c'est le lait. Lorsque vous accomplissez ce que la Bible dit, c'est la viande. Alors, ce n'est pas l'idée que Dieu doit vous donner de la viande. Dieu vous donne le lait, c'est-à-dire apprendre ce que dit la Bible. Quelle est la volonté de Dieu? C'est le lait. Mais lorsque vous l'accomplissez, vous avez maintenant la viande. C'est la différence entre l'immaturité et la maturité spirituelle. Voilà. La maturité, ce n'est pas de connaître beaucoup de passages de la Bible. La maturité, c'est de vivre l'Écriture. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit de désirer le lait spirituel, parce que là, nous apprenons quelle est la volonté de Dieu. Et lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, nous sommes habitués à exercer la parole de Dieu et de discerner ce qui est bien et mal. Comment pouvons-nous discerner ce qui est bien et mal? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir nos sens exercés? Alors, si vous allez et accomplissez la volonté de Dieu, alors vous ne serez pas ballotté à tout vent de doctrine. Vous allez simplement agir et vous serez quelqu'un qui accomplit la parole, comme nous dit le livre de Jacques. Et les gens peuvent venir à vous avec de fausses doctrines et de vous faire chambranler. Parce que jusqu'à ce que vous accomplissiez quelque chose, votre connaissance n'est que de la théorie, n'est-ce pas? Mais lorsque vous accomplissez ce que Dieu veut, il n'y a plus de questions à se poser, il n'y a plus de théorie à mettre en cause, vous le faites. Si vous seriez venu vers moi aujourd'hui et dire, Monsieur Curry, ah, oh, la guérison, c'est quelque chose du passé. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'était pour le temps de Jésus seulement et des apôtres. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour aujourd'hui. Tout cela est déjà accompli. Croyez-vous que vous pourriez me faire chambranler? Non! Pourquoi? Parce que je vous dirais, tu arrives trop tard. J'ai déjà vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Je l'ai vu souvent à l'œuvre. Tu ne peux pas me convaincre du contraire. Parce que pour moi, ce n'est pas de la théorie. Je le vis. Je le vois. Tu ne peux pas m'inculquer de bizarres doctrines et me convaincre que ce que je vis n'est pas vrai. Mais si je n'avais jamais prié pour les malades, si je n'avais jamais vu aucun malade guéri, alors tu serais venu me dire que la puissance de Dieu n'est plus pour aujourd'hui, alors peut-être tu aurais pu me convaincre. Parce que la Bible, à ce moment-là, il serait devenu un livre de théorie que je n'avais jamais expérimenté. Alors votre théorie est aussi bonne que la mienne, mais lorsque je l'accomplis et que j'expérimente les résultats du ministère de Jésus, votre théorie n'a aucune chance contre la réalité de ce que je vis de la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de gens qui se réclament du christianisme et cependant ne vivent que des théories sans expérimenter du tout la vraie parole de Dieu. Parce que lorsque nous expérimentons la parole de Dieu, vous grandissez en Jésus-Christ, comme nous voyons dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, alors que nous grandissons, les cinq ministères ont été placés dans l'Église pour perfectionner les croyants, d'accomplir l'œuvre du ministère et de les amener à une maturité. Éphésiens 4, à partir du verset 11, si on lit attentivement, mais vous devez grandir en Jésus-Christ. Cela veut dire que vous allez lui ressembler, vous allez devenir comme lui et vous aurez les mêmes résultats que Jésus a eus lorsqu'il priait pour les gens. Parce que vous êtes maintenant parvenu à maturité. Et voilà ce que Dieu nous demande. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Vous avez été prédestinés. Dieu a une destinée pour vous. Et cette destinée est d'être conforme à l'image de son Fils Jésus. Comprenons bien cela. Dieu ne nous a pas prédestinés à être l'employé du mois ou d'être le meilleur dans votre domaine. On doit comprendre que la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est venu habiter en nous et cet esprit va renouveler notre intelligence. Alors oui, peut-être que nous allons devenir l'employé du mois ou le meilleur. Peut-être que vous allez devenir quelqu'un qui a beaucoup de succès parce que la bénédiction sera sur vous. Mais faites bien attention de ne pas différencier la bénédiction de Dieu et le but de Dieu. La bénédiction de Dieu vous aide peu importe où vous êtes, mais le but de Dieu est très simple et c'est le même pour tout le monde. Et voici quel est le but. Que vous soyez continuellement transformés jusqu'à ce que vous ressembliez à Jésus en tous les domaines. Et lorsque cela se produit, votre pensée est totalement renouvelée et vous aurez les résultats que Jésus a promis lorsque vous priez. Parce que Jésus n'a pas seulement dit de belles paroles. Il n'a pas seulement dit que vous allez faire les choses que je fais. Mais il a ajouté, vous ferez même des choses plus grandes que j'ai faites. Alors plusieurs de gens disent, quelles sont ces grandes œuvres? Alors disons que tout au moins, si nous arrivons à accomplir les mêmes œuvres que Jésus a accomplies, alors c'est déjà beaucoup. Donc par la suite, vous reviendrez me voir et par la suite, nous pourrons étudier plus en profondeur alors quelles seraient les œuvres plus grandes que Jésus a faites. Alors retournons la parole de Dieu, nous voyons Jésus ici qui pose une question aux disciples et qui leur demande, ne dites-vous pas, au verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous remarquez ce que Jésus a dit et sa manière de penser? Jésus a une pensée différente que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'il a dit, vous dites, il y a 4 mois et voici la moisson. Mais si vous regardez les champs, c'est déjà prêt. Alors comment est-ce que Jésus pense différemment des autres? L'Église place toujours une emphase sur que les ouvriers soient prêts et bien équipés. Et c'est ce que j'entends toujours, continuellement de la part des chrétiens. Des phrases comme « Je suis dans le jardin de Dieu, je suis en train de grandir, Dieu est en train de me faire grandir, j'étudie, et je grandis. Alors je ne peux rien faire d'autre que d'étudier maintenant. » Parce que nous plaçons toujours l'emphase sur le fait qu'un travailleur doit être parfait pour agir. Jésus n'a jamais pensé comme cela, car il a dit, vous aurez mon esprit, et mon esprit est toujours prêt à agir, peu importe votre habileté. Arrêtez de fonctionner selon vos propres habiletés. Laissez l'Esprit Saint vous donner ses habiletés. Et Jésus voulait dire, en fait, vous essayez toujours d'être juste. Mais il a donné un bel exemple en disant, regardez les champs. Vous, vous dites qu'il faut se préparer pour la moisson. Et cela va prendre 4 mois pour se préparer. Vous croyez qu'il faudra beaucoup de temps avant que vous soyez prêts. Mais la chose importante à se souvenir, ce n'est pas concernant votre habileté. C'est concernant la moisson. La moisson est blanche. Alors, peu importe si vous êtes prêts ou non, la moisson est blanche. Et nous devons récolter pendant que la moisson est prête. Alors, vous comprenez? J'aimerais vous poser une question. Si votre maison était prise en flammes, aimeriez-vous avoir l'aide d'un pompier qui a terminé sa formation ou simplement quelqu'un qui va venir lancer un seau d'eau? Alors, laissez-moi vous dire que j'aimerais avoir n'importe qui peut éteindre mon feu. Alors, pour moi, ce qui importe peu, que la personne ait beaucoup de formation ou non, qu'il sache comment bien manier les boyaux, ce qui m'importe, c'est que quelqu'un puisse éteindre mon feu. Mais si vous êtes quelqu'un qui est un grand professionnel, alors c'est possible que vous soyez plus concerné par la pression sur les boyaux, la manière de faire fonctionner tout le plan, etc. Et peut-être même, vous seriez impressionné de la manière dont les gens vous regardent travailler et essayer d'éteindre ce feu-là. Alors là, vous avez votre habit là, de pompier et le camion là, bien qui brille, qui est bien poli, bien ciré. Et il y a même certains pompiers qui sont plus concernés par l'apparence que par le but de leur travail. qui, en résumé, est d'éteindre le feu. Arrêtez d'attendre que tout soit parfait pour agir. Tous les jours que vous attendez, il y a une partie de la moisson qui va se perdre. Alors n'attendez pas d'être parfait pour agir. N'attendrez pas d'être prêt pour agir. Parce que je peux vous promettre, vous ne serez jamais prêt. Le petit oiseau dans le nid ne se sent jamais prêt pour s'envoler. Alors c'est pourquoi la maman oiseau va pousser l'enfant hors du nid, le petit oisillon hors du nid. Et c'est ce que Jésus veut dire là. Demandez au maître de la moisson qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le mot qui est utilisé pour envoyer dans le grec, dans la langue grecque originale du Nouveau Testament, veut dire de chasser avec force, de pousser avec force. C'est exactement le même mot qui est utilisé par Jésus lorsqu'il nous demande de chasser les démons. Jésus dit que les ouvriers doivent être chassés dans la moisson, comme nous devons chasser les démons. Alors, peut-être que vous ne m'aimez pas, peut-être que vous me voyez un peu comme une personne étroite d'esprit ou une personne trop dure ou rude ou que je suis trop direct avec vous. Il y a des gens qui croient même que je suis trop autoritaire. Mais je ne suis pas en train de regarder vers les gens qui me disent ça. Je regarde vers la moisson qui est en train de périr. Et je vois des chrétiens, et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de s'asseoir aux pieds de Jésus et de demeurer là, tranquille. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Premièrement, sa présence est avec nous continuellement. C'est comme ceux qui sont mariés entre nous. Vous savez que votre conjoint vous aime, n'est-ce pas? J'aimerais parler aux hommes, et vous les hommes, vous savez que vous aimez votre épouse, mais comment est-ce que vous lui démontrez cet amour? Est-ce que vous vous levez le lundi matin et vous dites à votre épouse, oh, je t'aime tellement, oh, j'ai encore mon cœur qui palpite, lorsque je t'ai rencontré, que nous nous sommes mariés, et je sais que je serai en retard pour mon travail, mais je ne peux pas aller travailler. Oh, je vais rester avec toi tellement je t'aime. Je vais m'asseoir à tes pieds. Et je vais te montrer combien je t'aime en m'asseyant à tes pieds. Oh, je veux être près de toi. Je veux te regarder laver la vaisselle parce que je veux être en ta présence. Et vous, les dames, vous savez que cela va durer seulement 30 minutes. Et vous allez dire à votre homme, si tu m'aimes, tu vas te lever et aller travailler. Et tu vas pourvoir à mes besoins. Et je veux vous dire, jamais dans la Bible, Dieu nous a dit de prouver son amour pour lui en demeurant à ses pieds. Sa présence vient avec nous partout. Mais on vous dit de prouver votre amour pour Dieu en allant à sa moisson et démontrer que nous aimons Dieu en allant aimer les gens perdus. Vous devez transformer votre mentalité et penser la manière que Jésus pense. Et si vous faites cela, et voici ce qui va se produire. Au verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Voyez-vous maintenant comment Jésus rattache le travail dans la moisson avec la vie éternelle? Vous n'avez pas la vie éternelle parce que vous allez dans la moisson, mais si vous aimez Dieu, vous irez à la moisson et vous allez arrêter de vous cacher derrière des excuses et vous toucherez la vie des gens. Vous ne serez jamais plus spirituel que lorsque vous témoignez de l'amour de Dieu à une personne et lorsque vous êtes en train d'aider une personne qui a besoin d'aide. Voilà la vraie spiritualité. Ce n'est pas juste de mémoriser la Bible. Non pas même si vous priez beaucoup. Non pas si vous manifestez différentes émotions. Mais comment vous aimez les gens. Voilà l'amour de Dieu. Et j'aimerais répondre à une question maintenant. Alors voici la question qui m'est posée. Quelle est la différence de prier pour une guérison et de prier en fait pour quelqu'un qui est malade et de prier pour quelqu'un qui a un esprit d'infirmité? Alors, un esprit d'infirmité est un esprit démoniaque très faible. Ce n'est pas un esprit très fort. C'est une telle sorte de démon et il est très facile de le battre. Même si souvent les gens ont cet esprit sur eux pendant des années, généralement, l'esprit d'infirmité vient dans une personne par un accident, suite à un accident, ou une expérience très traumatisante. Encore peut-être une personne qui a vécu un abus très grave ou un viol à ce moment-là, parce qu'il y a un moment intense de peur et de crainte. Alors là, il y a une porte ouverte pour un esprit, et à cause de cela, cet esprit peut les accabler pendant des années. Et une manière de discerner cela, celle que le problème initial qui a causé la maladie n'est rien en soi, mais la condition s'est transformée et même empirée au fur et à mesure. Et plus les années avancent, plus la personne est accablée. Et graduellement, les gens finissent par une profonde dépression et beaucoup de peur liée à leur condition. Souvent, ces gens-là ne veulent plus sortir, ils demeurent dans leur maison. Et même souvent, de quelques infirmités physiques aussi se manifestent. Mais tous les chrétiens qui voient une personne qui a cet esprit-là peuvent aller vers elle et simplement dire: Je te libère, je te libère de cette infirmité au nom de Jésus. Une autre manière de faire, c'est de parler directement à l'esprit mauvais. Et vous pourriez dire quelque chose comme ceci: Toi, esprit d'infirmité, je te commande de fuir. Vous devez le dire d'une manière qui va convaincre que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes sérieux. C'est comme si vous désiriez chasser un chien. Alors, si le chien est méchant, vous ne serez pas là à lui parler d'une voix douce. Simplement, vous allez avoir une voix autoritaire et vous allez lui dire: Va-t'en! Donc, c'est un peu la même chose avec les démons. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas non plus le volume ou l'intensité de votre voix qui va faire en sorte que le démon va fuir. C'est l'assurance que vous avez et la conviction de l'autorité que le Seigneur vous a donnée. C'est le Saint-Esprit en vous qui vous amène à relâcher votre foi dans l'autorité de Dieu, avec votre voix et avec votre manière d'agir. Et tout vient en même temps comme ça. Et souvent, au début, vous allez devoir parler fort. Mais ce n'est pas ce qui fait fuir l'ennemi. Vous pouvez parler fort sans avoir de conviction. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Alors utilisez la force de l'esprit qui est en vous et vous devez relâcher cette puissance à travers votre voix et vos actions. Vous devez frapper l'esprit mauvais comme un coup de poing avec vos paroles. C'est ce que Smith Wigglesworth faisait, comme on en a parlé déjà. Lui, il le faisait tangiblement. Il frappait vraiment. Une autre manière pour discerner un esprit d'infirmité, c'est que si vous demandez à la personne quel est votre problème, et ils disent: Les docteurs ne trouvent aucun symptôme, rien. Souvent, c'est un esprit d'infirmité qui est là. Ou s'il vous parle d'un accident en plus. Encore une autre façon de le discerner, cet esprit, c'est que souvent, l'esprit d'infirmité ne demeure pas. En d'autres mots, le problème quitte et revient, quitte et revient. Et il y a des moments où vous pouvez voir le problème, il est là, et il y a des temps où le problème semble absent. C'est simple de chasser cet esprit-là parce que c'est le plus faible des esprits. Alors ce n'est pas une grande chose de chasser un esprit d'infirmité. N'importe qui pourrait le faire. Alors bientôt, nous aurons fini la session, et ce que je vais faire, je vais prier concernant cela pour vous, et vous démontrer comment j'agis quand je prie. Et souvent, j'attends à la fin pour la partie guérison. Mais ça, c'est dans 3 jours. Alors, je vais prier ce soir et vous libérer de ces esprits ceux qui en sont possédés. Alors, deuxièmement, je vais répondre à l'autre question maintenant, en fait, nous avons traité la question de l'esprit d'infirmité et maintenant la question était comment différencier entre cet esprit et simplement la nécessité de prier pour une guérison. Alors, en réalité, c'est à peu près la même manière d'agir. Je vais vous donner une vue d'ensemble, non pas une formule, mais une manière d'agir en général. Souvenez-vous que c'est la chose maintenant la plus importante que je vais vous dire concernant ce sujet et comment agir envers ces gens, envers les gens. Lorsque vous allez vers une personne malade, parlez, adressez-vous à la maladie et demandez à la maladie d'accomplir ce que vous voulez qu'elle fasse. Dites-lui de partir, dites-lui de s'en aller, Et vous pouvez même dire de ne jamais revenir. Vous pouvez aussi faire cela à différentes parties du corps. Vous pouvez parler à une partie du corps et lui ordonner d'être guéri. Et qu'il s'agisse d'un bras, d'une jambe, ou vous pouvez commander la guérison à ces parties du corps. Et nous devons savoir que lorsque nous allons vers les malades, ce n'est pas prier. Nous n'allons pas prier avec eux. Nous ne désirons pas tout simplement aller vers le malade et tout à coup se mettre à parler à Dieu et lui parler du malade en question. Si vous étudiez le Nouveau Testament, vous ne verrez aucun endroit ni nulle part dans la Bible où Jésus se met à prier pour qu'une personne soit guérie, ni ses apôtres. Il ne priait pas pour cela. À chaque fois qu'il y a une guérison, Jésus, Paul et tous les autres apôtres font toujours la même chose. Ils commandent à la guérison de venir. Ils ne demandent pas à Dieu de guérir la personne. Lorsque Jésus était dans la synagogue et qu'il y avait une femme là qui était courbée à cause d'un esprit d'infirmité, si vous lisez ce passage, il est dit ceci. Lorsque Jésus a vu la femme, il l'a appelée et il a dit, Femme, tu es guérie ton infirmité. C'est ce qu'il a fait. Ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas dit, Est-ce que je peux prier pour toi? Ça, c'est quelque chose que nous faisons souvent. Jésus ne demandait pas la permission. Veux-tu être libre? Veux-tu être guéri? Combien de foi tu as? As-tu assez de foi pour la guérison? Il n'a pas dit ces choses à la femme. Parce que Jésus n'est pas comme nous. Jésus exerce le ministère à partir d'une position d'autorité. Je dois admettre que souvent, il est difficile pour vous de saisir cette vérité. Parce que ce que je vous enseigne, c'est que Jésus est notre exemple et qu'il est notre parfait exemple. Et je vous enseigne à agir comme Jésus agissait avec la même position d'autorité que Jésus avait, parce que c'est aussi la position que nous avons en Jésus-Christ. Vous êtes appelés à prendre la place de Jésus-Christ sur la terre. Alors vous parlez en son nom, avec son autorité, et vous commandez. Et là, ce n'est pas le temps de commencer à prier Dieu. La seule expérience dans la Bible où quelqu'un a prié, en fait, il y a eu deux endroits. Le premier, c'était à la tombe de Lazare. Et même là, lorsque Jésus s'est adressé au Père avant de ressusciter Lazare, il n'a pas demandé ou il n'a pas prié que le Père ressuscite Lazare. Il a prié et il a demandé au Père, Je te remercie parce que tu m'entends. Et je sais que tu m'entends toujours, tu m'écoutes. Et la seule raison que je te prie, Seigneur, c'est pour que les gens ici autour de moi sache que je te représente. Il n'a jamais demandé au Père, s'il te plaît, ressuscite Lazare. Et après qu'il s'est adressé au Père, alors il a commandé aux morts de ressusciter. Cet homme était mort. Ce n'était pas une maladie. Il était mort. Alors là, ce n'est pas, si nous voulons être honnêtes dans notre lecture de la Bible, cela n'est même pas un exemple de prier pour une guérison, parce que ce n'est pas pour une guérison. Lazare était mort. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit dernièrement? Comment il faut s'adresser aux parties du corps et leur commander ce que nous voulons qu'il se produise? Alors, qu'est-ce que Jésus a dit à Lazare? Lazare, sors! Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il voulait que Lazare fasse. Un autre exemple que je vais vous donner. L'apôtre Pierre est allé pour ressusciter une jeune fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il s'est éloigné d'elle un peu pour prier le Père. Et par la suite, il s'est tourné vers la jeune fille et il lui a dit de se lever. Alors pourquoi Pierre a fait cela? Il était là lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Alors il faisait ce que Jésus avait fait. N'est-ce pas incroyable? C'est simple, hein? Et même encore là, c'est une résurrection. Ce n'est pas une guérison. Alors si nous voulons apprendre à guérir les malades, il faut être fidèle à ce que la Bible enseigne. Alors les deux exemples que je vous ai donnés sont pour la résurrection des morts, donc c'est gratuit tout à fait. Vous m'avez posé une question concernant les maladies et je vous ai dit comment faire pour ressusciter les morts. C'est la même chose. Lorsque vous guérissez les malades, vous vous adressez à la maladie et vous lui ordonnez de partir. Vous parlez au corps humain et vous lui ordonnez de guérir. Et là, vous pouvez imposer les mains et que la vie puisse être communiquée. C'est une manière standard de le faire. Et ça fonctionne. Alors voici, c'est ce que je voulais vous dire en cette session. Il y a une autre question. Bon, je vais répondre à cette question avant de terminer. Alors la question est celle-ci. Est-ce que nous pouvons délivrer quelqu'un qui a des démons sans au préalable lui enseigner qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il doit comprendre pour éviter que les démons reviennent pour le tourmenter? Et la réponse est oui. Un verset que vous devriez mémoriser est Luc 10, 19. Alors Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et encore ici, nous voyons la puissance, et ce mot-là veut dire « habileté » de l'ennemi. Alors ce que Jésus dit est ceci, « Regardez, prenez note, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute l'habileté de l'ennemi. » Il nous a dit que nous avons la puissance et l'autorité sur les démons, sur toutes les maladies, toutes les infirmités et tous les démons. Maintenant, si une personne veut être libre, alors nous pouvons les libérer. Oui, évidemment. Mais s'ils ne veulent pas être libres, vous pouvez quand même les libérer. Mais les démons vont revenir. Jésus a donné un exemple. Et Jésus a dit, si vous chassez un démon et vous ne remplissez pas la maison, alors le démon, oui, le démon va sortir parce qu'il doit vous obéir, mais il va revenir. Et lorsqu'il voit que la maison a été nettoyée, il va revenir et il va amener avec lui sept autres esprits méchants. Alors là, c'est une situation qui est pire qu'avant. Mais cela démontre que la personne voulait avoir les démons. Et cela prouve aussi que la personne n'a pas continué de marcher avec Dieu. Alors, l'autre chose que nous voyons, évidemment, dans ce passage, c'est que cela démontre aussi que l'autorité sur les démons fonctionne et que n'importe lequel chrétien peut chasser ce démon-là. Je sais que ce n'est pas toujours ce qui se produit, malheureusement, mais c'est ce que la Bible a dit, c'est le standard biblique. Et à ce point-là, votre travail, votre responsabilité est de faire de cette personne un disciple du Christ et de lui enseigner comment marcher dans cette liberté. Et s'ils ne le veulent pas, alors vous pouvez les avertir et leur dire, votre situation peut revenir et même empirer. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il chasse des démons, ou même lorsqu'il guérit les malades, souvent il va dire aux gens, va et ne pêche plus, parce que des choses pires peuvent se produire. C'est le même principe. Oui, vous pouvez libérer des gens, mais s'ils ne veulent pas devenir disciples du Christ, alors oui, les démons vont revenir et leur situation peut même empirer. Alors la question qui est corollaire à celle-là est celle-ci. Si cela peut se produire, alors est-ce que je devrais libérer cette personne? Parce que leur condition peut être plus pire encore, plus tard. Mais nous devons aimer les gens suffisamment pour leur donner une chance. Parce que vous ne savez pas à l'avance quelle sera leur réponse. Peut-être qu'ils vont suivre Dieu, ou peut-être qu'ils vont se tourner vers le mal. Mais allons au cœur du problème. Si vous saviez, sans l'ombre d'un doute, que vous pouvez chasser n'importe quel démon, n'importe quand, la question du « est-ce que je devrais » serait secondaire, parce que vous savez que vous pouvez le faire. La question que nous devons nous poser à ce point-là, c'est « est-ce que j'accomplis actuellement ce que Dieu demande, c'est-à-dire d'aller et chasser les démons. » Parce que l'exemple que nous venons de donner pourrait même devenir un alibi, une raison pour se cacher derrière la peur, pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande, d'aller et de guérir les malades et délivrer les captifs. Mais nous n'avons pas le droit de faire un choix pour les autres. Parce qu'en choisissant de ne pas libérer les captifs, nous les condamnons à cette oppression, nous assumons qu'ils ne suivront pas Dieu par la suite. Alors cela n'est pas la nature de Dieu. Parce que si c'était la nature de Dieu, probablement personne ici aurait été sauvé. Parce qu'il sait que vous allez pécher encore après que vous soyez sauvé et né de nouveau. Alors cela démontre que ce n'est pas la nature de Dieu de retenir la bénédiction. Dieu veut libérer et guérir. Alors nous devons saisir toute opportunité pour libérer les gens. S'ils ne veulent pas servir le Seigneur, alors lorsqu'ils le verront face à face, ils seront responsables et ils ne pourront pas dire que Dieu n'a jamais agi en leur faveur. Et Dieu va leur répondre, tu savais que j'étais réel parce que mon fils ou ma fille t'a libéré de ton démon et tu as su que tu étais libre par la puissance de Dieu, par ma puissance. Et pourtant, tu as continué à suivre le diable. Alors tu n'as aucune excuse. Ça, c'est la pensée de Dieu. Voilà. On va cesser la session maintenant. Je vais vous revoir à la prochaine. Merci.